repenser la consommation. Les podcasts du Cercle de l'Obsoco en partenariat avec Moustique The Audio Agency et The Conversation. Nathalie Lemarchand, géographe, professeure, directrice adjointe laboratoire LADIS, Université de Paris 8, Vincennes-Saint-Denis.
Alors, l'espace marchand semble devenir le symbole d'un mode de consommation contestable. On entend fréquemment, dans les médias, des échos sur tel projet commercial, telle situation de tension entre Carrefour et les producteurs agricoles. Donc, on a l'impression qu'il devient un sujet politique, désigné comme l'expression d'une forme de consommation mondialisée et imposée. La discussion ne semble plus de mise, la négociation non plus, il y a l'imposition d'un modèle, d'une forme de consommation. Cependant, la mondialisation prend de multiples formes. De la production de centres commerciaux à la réinvention du souk oriental, du commerce à la valise ou trabendo au souk Dubaï, on a une multiplicité d'expériences d'espaces marchands. Mais les uns et les autres, effectivement, ne subissent pas la même controverse. Quand le McDo de Millau est détruit en 1999, ou qu'en 2013, le projet d'un centre commercial à Istanbul est contesté, de nombreux autres se construisent dans une relative indifférence, voire même dans une certaine attente. La diversité d'espaces marchands mondialisés et les partenariats qui les produisent reflètent alors combien ces espaces marchands sont des lieux, certes de contestation, comme des lieux d'identification. Après quelques rappels sur la mondialisation et un bref panorama des enjeux autour des nouveaux centres commerciaux, je prendrai quelques exemples pour illustrer ces centres marchands mondialisés qui sont l'objet de cette contestation, quand d'autres sont des lieux d'identification, de consommation nouvelle ou réinventée. Alors, la mondialisation n'est pas un phénomène nouveau ni récent, on vient de l'évoquer. Et je vous ai mis ici une carte produite par Sciences Po. Alors, en géographie, on aime bien les cartes, on ne les produit pas forcément. Il y a de moins en moins d'ateliers de cartographes dans les départements de géographie, on peut le déplorer. Mais il existe quand même de très bons cartographes qu'on peut trouver dans certains établissements. Et ici, Sciences Po produit des cartes superbes. Donc là, vous voyez ici, en 2010, le commerce mondial de des marchandises replace en quelque sorte la triade et puis autour donc l'ensemble des flux de marchandises avec ces flèches de plus ou moins grande épaisseur selon l'importance des flux. En bas à droite donc les cartographes ont placé le commerce intra-régional trop important pour être produit sur la carte elle-même. Donc, je le disais, la mondialisation n'est pas un phénomène nouveau. Dominique Desjeux vient de nous le rappeler. Elle a été cependant théorisée à partir du XXe siècle. Elle fait alors l'objet de nombreux débats pour connaître sa nature et sa chronologie. Et pour ma part, je reviendrai ici sur l'usage du mot et sur quelques épisodes de cette mondialisation qui permettront de mieux saisir l'association entre mondialisation et échange marchand. Alors, tout d'abord, rappelons que si les échanges marchands ont plusieurs millénaires derrière eux, le terme pour désigner cette internationalisation date de 1961. Il apparaît d'abord dans le monde anglophone, avec globalisation, et désigne avant tout les échanges économiques. Dans la langue anglaise, aucun autre mot n'est utilisé avec l'élargissement des aspects de la globalisation. On ajoute simplement un adjectif qualificatif pour la caractériser, culturelle, financière, politique, etc. En français, c'est intéressant, la traduction de globalisation par mondialisation a entraîné un débat sur la nature de celle-ci et a conduit finalement à employer deux termes, soit globalisation et mondialisation. Fréquemment, on emploie les deux, on prend l'une, on prend l'autre, mais généralement, derrière, il y a quelques nuances, et peut-être qu'inconsciemment, d'ailleurs, ces nuances, on les introduit nous-mêmes. Disons que, pour certains, la mondialisation a élargi le processus à une dynamique multidimensionnelle. L'analyse du processus de la mondialisation est devenue aussi pluridisciplinaire et a donné lieu à de nombreuses productions, dont celle de géographe, que vous me permettrez d'évoquer, donc, car c'est un des processus, la mondialisation, qui impacte fortement les territoires et qui participe à leur organisation. C'est ainsi qu'Olivier Dollfuss, qui a beaucoup écrit sur la mondialisation, propose l'idée d'un système monde, que l'on peut trouver en quelque sorte à travers cette diapositive, en 1996, et élabore aussi le schéma d'un archipel mégapolitain mondial, soit un ensemble de grandes métropoles qui contribuent à la direction du monde. Aujourd'hui, l'une comme l'autre de ces expressions sont d'usage courant. La mondialisation est donc un terme employé pour désigner les échanges internationaux qui se sont formalisés au cours de l'histoire entre plusieurs régions du monde, associant de grandes villes marchandes. Aujourd'hui, on identifie aussi ce qu'on appelle une mondialisation par le bas, qui se différencie de celle du haut, par ses membres, ses réseaux, ses circuits. Cette référence au réseau d'échanges marchands comme précurseur de la mondialisation va peu à peu s'affirmer avec la mondialisation contemporaine. Dans les années 80, Kenichi Omae, économiste, met en effet en évidence le rôle des grandes firmes comme agents principaux de la mondialisation. Par leur restructuration et leur extension au-delà des frontières, elles sont devenues des entreprises transnationales, profitant d'une nouvelle organisation mondiale du commerce, favorisant le libre-échange. Inutile de vous évoquer l'OMC, vous l'avez tous traduit. Parmi ces grandes firmes, on trouve celle de la grande distribution, qui par le jeu des fusions, associations, s'étendent horizontalement, verticalement, combinant parfois le financement et la production des espaces marchands jusqu'à la distribution des biens de consommation. Et ces entreprises de la grande distribution sont souvent les plus identifiées par les citoyens, qui sont des consommateurs urbains ou ruraux, car elles sont présentes dans leur paysage familier, dans le territoire quotidien de leurs déplacements et dans leurs univers d'approvisionnement. Elles leur sont familières, elles leur sont quotidiennes et communes. Elles deviennent alors en quelque sorte l'expression visible de la mondialisation. Alors, oui, certes, aujourd'hui, avec les récentes vagues de migration qui envahissent nos écrans et les discours politiques, l'image de la mondialisation a été élargie. Mais elle reste encore étroitement associée à l'échange économique, aux échanges marchands. C'est d'ailleurs la définition retenue par une banque en 2005 lors d'une enquête sur la perception de celle-ci en Europe. La définition proposée était la suivante : l'ouverture générale de toutes les économies qui conduit à la création d'un véritable marché mondial. Ainsi, donc, on le voit, de nombreux termes encore associés aux échanges marchands sont associés à la mondialisation. Alors, ces échanges marchands sont devenus aujourd'hui parmi les formes les plus visibles, je le disais, d'une consommation mondialisée dans l'espace public. Cependant, derrière ce terme, il y a une grande diversité de formes commerciales, du grand bazar d'Istanbul au nouveau centre commerçant, associant commerce et loisirs, du marché de quartier associant producteurs locaux et commerçants internationaux, au quartier marché Petit Dubaï, en passant par les grands magasins. On a là des exemples qui montrent que cela relève autant de la proximité sociale ou géographique que de la distinction sociale, culturelle ou économique. Alors, avant de se pencher sur ces formes et leurs contestations, un aperçu de leur production. Les espaces marchands mondialisés sont le résultat d'investissements associant souvent des promoteurs, des constructeurs, des agences locales, nationales et internationales. Ainsi, le Palms Shopping Mall de Lagos au Nigeria et l'Accra Mall d'Accra au Ghana sont clairement inscrits dans une logique planétaire. Conçus et réalisés par une agence sud-africaine, ils sont construits, qui a construit depuis 2000 une quinzaine de malls en Afrique, en Inde et en Arabie Saoudite. Ils ont été aussi le produit d'un partenariat avec Actis Capital, qui est une firme née britannique et spécialisée entre autres dans le montage d'espaces commerciaux dans les pays émergents. En Turquie, Carrefour, implanté à Istanbul en 1993, devient Carrefour SA en 2011 lorsque le groupe s'associe avec le groupe turc Sabancı. À côté de ces nouveaux espaces commerçants, d'autres plus anciens séduisent aussi les investisseurs à toute échelle, puisque, rappelons-le, en 2013, le printemps est racheté par un groupe qatari. Cependant, ces centres commerciaux, grands magasins, ne sont pas les seuls espaces marchands de la mondialisation. D'autres s'organisent au sein des quartiers. Pardon, j'ai oublié de vous mettre cette diapo du commerce de gros, Kazakhstan. Donc ces espaces marchands, donc je disais, ne sont pas les seuls à représenter les espaces marchands mondialisés. Sans aller à San Francisco ou à Montréal, mais en restant à Paris, il suffit de se rendre à Château Rouge pour trouver dans les boutiques du quartier tenues par des Africains, mais aussi des Asiatiques ou encore des Européens, de nombreux produits du continent africain. Il s'agit bien d'un espace marchand mondialisé qui rayonne de l'échelle locale à l'échelle nationale, sinon internationale. Dans le 10e arrondissement, c'est un espace marchand tamoul, Little Jaffna. Ailleurs, ce sera un espace marchand chinois. Ces derniers ont organisé le commerce de gros dans le 11e arrondissement d'abord et aujourd'hui à Aubervilliers, devenant une des trois plateformes du commerce de gros européen. Les produits viennent, comme pour de très nombreux espaces marchands à l'échelle mondiale, de Chine. En effet, en Algérie, à Oran, au Caire ou à Dakar, c'est là que s'approvisionnent les commerçants, grossistes ou semi-grossistes, vendant aux détaillants, installés parfois à quelques centaines de mètres, dans les souks Dubaï, les Dubaï, mais aussi dans les centres commerciaux. On le voit, des circuits internationaux qui s'organisent dans les nords comme dans les suds. Alors, pourquoi certains deviennent... Enfin, ce sont aussi d'autres... Alors, pourquoi certains deviennent-ils des sujets de contestation quand d'autres apparaissent intégrés ? La réponse se trouve dans les dynamiques locales, il me semble, et leur façon de conjuguer avec les enjeux de la mondialisation. Le McDo de Millau, en 1999, devient un des premiers symboles de l'exigence normative d'une consommation mondialisée. Le projet de centre commercial à Istanbul, rappelons-le, renvoie d'abord au refus des habitants d'un quartier à la construction de ce centre commercial qui va amputer le parc Gezi. Et puis, il va devenir un symbole de l'opposition d'une partie du peuple turc à son président. Mais le souk Dubaï de Medina Jida, à Oran, reconfigure un marché local, plutôt populaire, déjà bien identifié, et sa transformation par les produits made in China va de pair avec des changements dans la société algérienne. Le Si Plaza, centre commercial ouvert en 2010 à Dakar et situé en bord de mer, renvoie à un espace commerçant moderne et distractif dans lequel la population pratique la déambulation et se sociabilise. À Paris, les grands magasins sont autant des établissements associés au commerce international qu'à l'identité de Paris. Château Rouge est certes un quartier populaire international, mais c'est un quartier parisien. Ainsi, il n'y a pas de modèle d'espace marchand mondialisé unique, comme il n'y a pas de modèle de contestation générale et unique. L'articulation des échelles locales et globales entraîne, selon les cas, des effets différents et même divergents. C'est aussi... d'une certaine façon, si je puis dire pour conclure, ce qui fait la richesse de la production d'espaces marchands, qui, sans être un pari, est une aventure. Merci. Merci.
Le colloque n'aurait pas eu lieu sans le soutien de l'ESCP Europe, du Master Métier des études du Conseil et de l'intervention de l'Université Paris Diderot et du groupe La Poste. Il est dédié à la mémoire de Michel Enochberg, professeur d'économie à Paris-Ouest et membre du cercle de l'Obsoco depuis sa création.